avons terminé le chapitre 1er hier et nous abordons maintenant le chapitre 2. Le chapitre 2 qui comprend 18 versets. Mais nous le lirons par fraction. Nous allons lire d'abord les 4 premiers versets du chapitre 2. Et je vais, puisque vous avez certainement devant vous des versions secondes, je vais vous lire dans la Bible en français courant. Chapitre 2, versets 1 à 4. C'est pourquoi nous devons nous attacher d'autant plus fermement aux vérités que nous avons entendues, afin de ne pas être entraînés à notre perte. Le message que les anges ont apporté a prouvé sa valeur, et tout homme qui n'en a pas tenu compte ou lui a désobéi a reçu la punition qu'il méritait. Alors, comment pourrions-nous échapper à la punition si nous négligeons un si grand salut? Le Seigneur lui-même a annoncé ce salut en premier lieu, puis ceux qui l'ont entendu nous ont confirmé sa valeur. En même temps, Dieu a appuyé leur témoignage par des prodiges extraordinaires et toutes sortes de miracles. Il a également distribué les dons du Saint-Esprit selon sa volonté. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Et là, cette version comporte une précision. Comment pourrons-nous échapper à la punition si nous négligeons un si grand salut? Cette précision n'est pas quelque chose d'ajouté par le traducteur, mais elle résulte d'une traduction très, très exacte du texte. Comment échapperons-nous, second, n'est-ce pas, semble nous dire comment échapperons-nous à la mort éternelle, alors que dans l'idée du texte, comment échapperons-nous au châtiment ou à la punition? Parce que outre la mort éternelle, alors là c'est le grand châtiment, le châtiment éternel, le châtiment dont on ne revient pas. Mais il y a des châtiments, et l'Épître aux Hébreux va nous parler de châtiments qui ont pour but, châtiments administrés par Dieu, et qui ont pour but précisément de nous éviter la mort éternelle, nous éviter la perdition. Alors vous voyez qu'il y a une nuance importante. L'idée, la notion de châtiment délivré par Dieu en vue précisément de nous détourner d'une mauvaise voie qui nous conduirait à la perdition, hein, cette notion va être mise en honneur par l'Épître aux Hébreux. Les anges restent toujours en question dans le chapitre 2, nous ne les avons pas perdus, nous avons vu en chapitre 1er pourquoi l'Épître aux Hébreux entend nous démontrer que Jésus-Christ est supérieur aux anges. Nous avons rappelé, n'est-ce pas, que, avec texte à l'appui, que la loi a été annoncée sur le Sinaï par ministère d'anges. Ce que, en général, on ne sait pas, ou on n'a pas relevé, on croit que c'est Dieu qui a lui seul prononcé toutes les lois et les ordonnances adressées au peuple d'Israël et qui ont constitué l'ancienne alliance. Pas du tout, ce sont des anges. Et les Israélites en étaient conscients, c'est pourquoi ils avaient élevé les anges si haut, ils leur avaient même décerné une sorte de vénération. C'est même arrivé par excès à un culte des anges qui est signalé par les Colossiens. Bon, alors là, l'Épître aux Hébreux a voulu tout de suite montrer pourquoi Jésus-Christ, en tant que fils, en tant que roi, en tant que souverain sacrificateur, et en tant que appelé à s'asseoir à la droite de Dieu, pourquoi donc, au vu de toutes ces raisons, Jésus-Christ est de beaucoup supérieur aux anges. Mais cette supériorité à l'égard des anges va être reprise. Cependant, là, dans les quatre premiers versets, l'Épître va nous parler, nous prévenir contre la négligence du salut. Après avoir établi, par le témoignage de l'Écriture, l'éminente supériorité du Fils de Dieu par rapport aux anges, l'Épître entreprend maintenant de nous donner un avertissement des plus sérieux et des plus graves. La suprême élévation du Christ a pour conséquence la supériorité de l'Évangile sur ce qui l'a précédé. Et cette supériorité, si vous connaissez bien votre Bible, dans 2 Corinthiens, au chapitre 3, Paul la situe très bien aussi. « Ministère de la mort », dit-il même, n'est-ce pas, concernant l'ancienne alliance. Ce ministère de la mort a cessé et remplacé par le ministère de l'esprit, ministère de la vie. Et l'Évangile a pour seul objet le salut éternel des hommes de foi. Voilà, un point, c'est tout. L'Évangile a pour seul objet le salut éternel. Il faut l'affirmer aujourd'hui parce que, nous voyons, vous savez, l'Église est assaillie de tous les côtés. Et vous voyez, en venant à ce séminaire, on m'a encore apporté des preuves de ce que, de tous les côtés, vraiment des efforts concertés par le monde des ténèbres viennent assaillir l'Église, essayer de la détourner de la vérité et de son chemin. Alors, il faut réaffirmer ceci, c'est que l'Évangile a pour seul objet le salut éternel des hommes de foi. Il n'est pas question d'établir la justice dans un monde qui ne croit pas. Il n'est pas question, par conséquent, d'action politique. Il n'est pas non plus question de ces actions dont, n'est-ce pas, nous parle ou nous propose, que nous propose une certaine association, c'est une association, je crois, œcuménique, une certaine association œcuménique qui malheureusement trouve un certain accueil dans l'Église évangélique. Il n'est pas question de ça. Le seul but, seul objet de l'Évangile est le salut éternel des hommes de foi, des hommes qui se repentent, qui se convertissent et reçoivent la grâce. La loi qui autrefois fut promulguée par des anges disposait d'autorité, et tout transgresseur a subi les justes sanctions qu'il méritait, ce que notre texte nous rappelle, car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, remarquez ceci, a reçu une juste rétribution, c'est-à-dire une rétribution qui est intervenue avant le grand jugement qui met certains des hommes dans la perdition et d'autres sur le chemin de l'éternité. N'est-ce pas ? Donc une rétribution temporelle, c'est-à-dire dans le temps présent. Une rétribution qui a permis, ou était destinée à permettre, un redressement. Or, l'Évangile annoncé par Jésus-Christ, confirmé par les apôtres et appuyé par le témoignage de Dieu, sous la forme de signes, de prodiges et de miracles, cet évangile appelle la plus entière fidélité sous peine des conséquences graves, parce que la punition de Dieu peut être excessivement grave, le châtiment même temporel, n'est-ce pas? Faisons bien la différence, ayez bien dans l'esprit cette différence entre le châtiment temporel, dont nous aurons à parler encore, châtiment temporel qui intervient dans le temps, dit temporel parce qu'il intervient dans les temps actuels, hein, c'est-à-dire avant les coupables ne soient touchés par la mort et que par conséquent pour eux tout s'arrête. Donc les châtiments éternels, qui sont des châtiments de redressement, et puis le châtiment éternel, qui n'est pas, lui, temporel, parce que c'est un châtiment, n'est-ce pas, qui est irrévocable pour l'éternité. Mais enfin, même le châtiment temporel que Dieu peut employer pour notre rétablissement, notre redressement appartient quand même aux conséquences, à des conséquences graves de l'infidélité. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? C'est-à-dire, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, de peur que nous ne soyons emportés loin des paroles entendues? Négliger les paroles de notre salut nous conduirait donc à notre perte, même si Dieu nous arrête sur le chemin de la perdition. Mais il n'empêche que négliger le salut nous met en direction de la mort. Et l'apôtre Paul, lui, n'hésite pas quand il nous dit que ceux qui s'affectionnent à la chair, eh bien, sont sur la voie de la mort. S'affectionner à la chair, c'est la mort. Il n'y a que l'affection à l'esprit qui est la vie. Donc, négliger les paroles du salut nous conduirait à notre perte et nous risquerions de sombrer. Et il y a des gens qui peuvent sombrer même si Dieu leur administre ou les fait passer par certaines épreuves, leur inflige certains châtiments d'arrêt, certains châtiments temporels, mais ils ne redressent pas leur conduite. Et alors, ils vont à leur perte. L'expression du verset premier est très significative. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Le chrétien infidèle à la parole entendue est comparé à un bateau. Vous voyez, la traduction ne livre pas tout du sens du grec. C'est difficile à traduire. C'est pas toujours facile. La tâche du traducteur est souvent très difficile. Le chrétien fidèle, je répète, à la parole entendue, est comparé à un bateau qui dérive et qui est emporté sans contrôle, qui manque le port où il aurait dû entrer. Voilà la comparaison qui apparaît dans le texte grec. La coupable négligence produit donc une dérive, comme celle d'un bateau qui n'est plus maître de sa direction. La négligence produit donc une dérive, et au bout de cette dérive, il y a le naufrage. À moins que le châtiment du Seigneur soit compris et permette de redresser la marche, de rétablir la bonne marche. La négligence occasionnera certainement un châtiment, comme le passé des Hébreux en témoigne. Mais, évidemment, ce châtiment ne garantit pas, si la chose persiste, si la négligence persiste, le châtiment ne garantit pas que nous serons réellement saufs d'une perdition éternelle. Le grand conseil est donc de prendre garde à tout ce qui peut constituer la négligence du grand salut reçu, et aussi de nous attacher à ce que Dieu nous a fait entendre. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, nous attacher aux choses entendues. Toute négligence se traduira par une vie chrétienne faible, hésitante, hérissée de problèmes de conscience, car ce qui fera souvent le malheur, de ce qui fera sentir le malheur, c'est précisément la conscience. N'oublions pas le rôle de la conscience chez le chrétien. Prenons garde aux suggestions de l'extérieur, aux exemples du monde qui immanquablement nous introduiront dans l'oubli des enseignements de l'Évangile et par conséquent nous cesserons d'être attachés aux paroles entendues. C'est le monde qui fera ça. Et c'est le diable, en se servant de monde, qui le fera. Ne perdons jamais de vue la grandeur immense du salut que Dieu nous a accordé, selon un amour qui a déployé les actions les plus considérables. Et nos mots sont faibles. Ceci étant, nous passons au verset 5. Et nous allons lire du verset 5 au verset 18, c'est-à-dire à la fin du chapitre 2. Essayons de ne rien oublier au fil de notre lecture. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir, dont nous parlons. Or, quelqu'un a entendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Et encore, « Je me confierai en toi. » Et encore, « Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, Jésus, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toute chose à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple, car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Amen. Voyons d'abord 5 à 8. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ? Qui est une citation du psaume 8. Voici un argument nouveau en faveur de la supériorité du Christ sur les anges. C'est toujours là dans ce passage ce que l'auteur de l'Épître a en vue, le Saint-Esprit, disons. Jésus est le prince et le dominateur du monde à venir, le monde à venir. Et là que nous trouvons cette expression, le monde à venir. Il y a une émission qui s'est emparée de ça. C'est malheureux qu'on prenne des expressions de la Bible comme ça pour les accaparer et en faire ce qu'on veut. Le monde à venir, c'est l'expression de la Bible. Et le psaume 8 nous dit, à partir de son verset 5 et jusqu'à son verset 7, le psaume 8 nous dit ceci. « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. » Notez bien ceci, de peu inférieur à Dieu. Dans le texte hébreu, il y a Elohim. Elohim. Oui, d'ailleurs, ma version le porte. Votre version aussi peut-être le porte en note. Hébreu Elohim. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Donc, nous allons voir que Jésus est prince et dominateur du monde à venir, mais n'allons pas trop vite. Avant de voir ce psaume, arrêtons-nous à l'expression « le monde à venir » dont nous parlons, dont parle le texte de l'Épître. Ce monde, à la réalité duquel l'Épître aux Hébreux rend témoignage, c'est le monde transformé par la parole de Christ. C'est, autrement dit, si on veut préciser, la nouvelle humanité qui va sortir, la nouvelle humanité qui va sortir du salut, nouvelle humanité, une grande partie, hélas, de l'humanité qui aura pris naissance sur la terre, sombrera dans la mort éternelle, mais de là sortiront les hommes nouveaux. Et alors, une nouvelle humanité est en formation. Et cette nouvelle humanité va d'abord résider sur la terre transformée. La terre est aussi, ne l'oublions pas, va être entièrement transformée. Elle va connaître une palingénésie, c'est-à-dire un nouvel engendrement. Et le monde à venir dont nous parlons, c'est celui-là. C'est le monde à la réalité duquel l'Épître rend témoignage. Il y a, en somme, deux mondes à envisager et deux mondes qui s'opposent. Le monde ancien, celui qui a été livré au péché et à l'iniquité par l'infidélité d'Adam et d'Ève, et puis le monde nouveau que forme l'œuvre de la rédemption, c'est lui qui prend nom royaume de Dieu dans sa phase eschatologique, c'est-à-dire dans sa phase future. C'est le royaume de Dieu, qui se révélera pleinement quand le Seigneur Jésus-Christ descendra dans la gloire de Dieu pour régner. Mais on peut dire que ce monde nouveau a déjà commencé d'exister, et que tout vrai chrétien appartient à la fois à ces deux mondes, le monde ancien et le monde nouveau. Tout chrétien, vous mes amis, vous appartenez à deux mondes. Le monde nouveau a pour réalité actuelle le règne des cieux. Le règne des cieux dans les cœurs, dans les vies. À cause de l'œuvre de Jésus, n'est-ce pas? Bon, le monde nouveau, c'est la réalité actuelle. Il n'est pas encore venu de manière à frapper les regards, de manière concrète dans la terre. Ça, c'est encore à venir, à venir. Mais actuellement, le monde nouveau a une réalité nouvelle, a une réalité actuelle, pardon. Il est pourtant aussi à venir, et quand cela sera, il remplira la terre rénovée. C'est ce qui est appelé dans l'Écriture le rétablissement de toutes choses. Ce monde-là, notre épître nous dit, mais Dieu ne l'a pas soumis aux anges, mais à son Fils. Il n'a pas soumis ce monde à venir aux anges, il l'a soumis à son Fils. Qui donc se trouve placé, par conséquent, bien au-dessus des anges, toujours cette pensée de manifester, de montrer la supériorité de Jésus sur le monde des anges. L'ancienne alliance avait été donnée par le moyen des anges, mais la nouvelle alliance est donnée par le Fils. Alors maintenant, nous pouvons nous reporter au psaume 8 que nous avons lu, qui est cité dans les versets 5 et 6 de notre épître. Ce psaume s'applique tout d'abord à l'homme. Tout d'abord à l'homme. Hein? Il faut être, bien sûr, certains l'appliquent tout de suite à Christ. Enfin, il faut quand même être juste, être droit. Avec l'Écriture, on veut bien donner le maximum à Christ, c'est pas nous qui donnons, c'est Dieu, n'est-ce pas? Reconnaître que tout est à Christ, mais il faut quand même être honnête avec l'Écriture. Alors là, dans le psaume 8, nous avons dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? C'est-à-dire l'homme créé, Adam, et tous les hommes qui sont sortis de lui. Et le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds, les brebis, les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Et c'est vrai que Dieu a donné cette création de la terre et de ce qu'elle porte, il l'a assujetti à l'homme. Assujettissait toute chose. C'était l'ordre de Dieu. Donc, c'est un rappel ici que fait le psaume 8. Et c'est d'abord à l'homme qu'il faut appliquer ce psaume. Compte tenu de diverses traductions et pour se rapprocher du texte hébreu, on peut retenir le texte suivant. Qu'est-ce que l'homme, donc voilà une traduction, n'est-ce pas, si vous voulez, qui se veut plus exacte, plus littérale, que même notre traduction seconde. Qu'est-ce que l'homme fragile pour que tu te souviennes de lui? Cette notion de fragilité a disparu dans la traduction, c'est dommage, elle existe dans le texte hébreu. Qu'est-ce que l'homme fragile pour que tu te souviennes de lui? Et le fils d'Adam, non pas le fils de l'homme, mais le fils d'Adam. Et le fils d'Adam pour que tu t'en soucies. Tu l'as fait presque l'égal des êtres célestes. Elohim peut être traduit par Dieu, c'est vrai, mais peut-être peut avoir aussi pour sens celui-là, les êtres célestes. Elohim, c'est un pluriel. Tu l'as fait presque l'égal des êtres célestes. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné l'empire sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, brebis et taureaux, et aussi bêtes des champs, oiseaux du ciel et poissons de la mer. Tout ce qui parcourt les routes des océans Éternel notre Seigneur, que ton nom est glorieux par toute la terre. Voilà une traduction, alors là, tout à fait un peu corrigée, tout à fait littérale. Dans ces versets, le psalmiste s'étonne, en somme, d'un grand contraste qu'il aperçoit entre l'homme qui est tiré de la terre, Adam à ce sens, n'est-ce pas, terre, tiré de la terre, entre l'homme tiré de la terre et qui aujourd'hui apparaît si fragile, alors que Dieu l'a créé de peu inférieur aux êtres célestes. Il y a eu souvent un débat à ce sujet, les darbistes tenaient à ce que ce soit les êtres célestes ou les anges, et puis, en somme, notre épître aux Hébreux, qui cite le psaume 8, adopte la traduction « ange », parce que la citation provient de la version grecque, et non pas de la version hébraïque, la version grecque des Septante. Donc, un contraste est aperçu entre l'homme tiré de la terre et qui est fragile, et le fait que Dieu lui a donné tant de choses, toute cette domination, comment Dieu a donné cette domination à un être si fragile qu'il a, tel qu'on le connaît maintenant, fragile. Un rien le fait mourir, un rien. Et il y a un pêcheur un jour, pourtant homme très fort, qui se fait mordre par un brochet. Deux jours après, il était mort. Mais ça paraissait minime, rien. Il y a quelquefois des causes absolument infimes qui amènent la mort. L'homme est fragile. L'homme est fragile. Alors que Dieu l'a créé de peu inférieur aux anges, aux êtres célestes, et qu'il l'a établi dominateur sur les œuvres de ses mains, ayant tout mis sous ses pieds. Dieu a fait de l'homme, en effet, le maître de toutes choses sur la terre. L'homme apparaît petit, faible, mortel, et pourtant, il a été créé pour une haute destinée. Il y a un contraste. Il y a quelque chose qui est paradoxal, là. C'est ce que notre épître veut souligner. Il y a quelque chose de paradoxal. On ne confie pas une pareille domination, une pareille chose à quelqu'un de si fragile. Mais l'homme est fragile parce qu'il est pécheur. Parce qu'il sort du jardin d'Éden, il emporte de tout ce qui s'est passé en Éden, cette fragilité avec la propension au péché. Créé à l'image de Dieu, créé pour être une habitation de Dieu en esprit, c'est ce que nous voyons dans le Nouveau Testament, l'homme était appelé à participer à la sainteté de Dieu et à refléter sa gloire. Le monde entier, là, devait lui être soumis. C'est ce pouvoir, cette royauté, que l'Antichrist prétendra exercer. L'Antichrist, ne l'oublions pas, vient lui aussi comme un fils de l'homme. Il est un fils de l'homme. Il viendra, lui, pour prétendre exercer ce pouvoir qui est noté dans le psaume 8. Aujourd'hui, les hommes livrés au mal, étrangers à la vie de Dieu, voudraient se saisir de la domination du monde. C'est ce que nous voyons dans notre société aujourd'hui. Ils voudraient se saisir de la domination du monde. Ils s'y efforcent par leurs propres moyens. Et ils n'y réussissent pas. Vous voyez ce qui se passe à Nîmes, par exemple. Ce qui s'est passé, on prend cet événement parce qu'il est tout frais, tout récent. Voilà une ville dans un hebdomadaire, on a mis le mot, Nîmes, la ville engloutie. Et effectivement, pendant un moment, elle a été vraiment engloutie. Et certains, en considérant ça, ont compris tout de même le déluge. Ils se sont dit, ben, si ça avait duré, ça, il a plu la nuit, puis il a plu toute la matinée, puis ça a suffi. Et s'il avait plu alors là pendant 3 semaines, ben, qu'est-ce qui se serait passé? Qu'est-ce que serait devenu cette ville et peut-être d'autres, hein? Vous voyez, alors l'homme est fragile. Il a par exemple pour cette ville de Nîmes, enfin, personne n'en sait vraiment le secret, n'est-ce pas? Eh bien, il y a beaucoup d'ambition. C'est une ville qui est livrée à l'ambition. Ambition. On a déjà fait des beaux des embellissements, des beaux travaux, on veut en faire de plus grands encore. Hein. Bien. Mais devant tout ça, les ordinateurs, par exemple, n'est-ce pas, dans la ville, quand ils ont reçu ce flot d'eau, bien, allez les faire fonctionner maintenant, allez voir un petit peu ce qu'ils vont vous dire. Hein, les pauvres, hein, ce sont des choses à jeter. Dans la ville, on a mis des grandes cuves là, n'est-ce pas, qui sont transportées par camion, hein, des conteneurs, c'est ça, des conteneurs, pas des grands conteneurs. Puis alors là-dedans, on met toutes sortes d'instruments de ménagers, on met de tout. J'y ai même vu des ordinateurs. C'est amusant. Vous voyez, non, mais ça nous fait réfléchir vraiment, hein, sur cette prétention de l'homme et sa faiblesse. Qu'un petit quelque chose intervienne, n'est-ce pas, et la faiblesse de l'homme tout de suite se manifeste. Alors, c'est pourquoi notre épître nous dit, nous ne voyons pas que l'homme ait pouvoir et autorité sur toute chose. Même si, par le moyen des techniques aujourd'hui, il réalise des choses qu'on peut qualifier, oui, de prodigieuses. Mais cependant, on ne voit pas que l'homme ait pouvoir et autorité sur toute chose. Les forces de la nature le dominent toujours. Il est ce roi déchu, pâtissant du malheur, angoissé, victime du mal qu'il déchaîne lui-même. Esclave de la chair, fermé à l'esprit, ignorant la vérité, ignorant, mais ça c'est une chose épouvantable pour quelqu'un qui se veut si grand, l'homme. Il ignore la vérité, il est dans l'ignorance. Prenez le plus grand savant, parlez-lui de l'Évangile, vous verrez souvent son attitude. S'il est matérialiste ou s'il est athée, et il y en a beaucoup, vous verrez sa position, n'est-ce pas, comme c'est affligeant, l'effet d'expérience, c'est quelque chose d'affligeant. En somme, l'homme, nous le voyons tomber sous la domination de tout ce qu'il devrait maîtriser. Il ne maîtrise rien. Il ne maîtrise rien. Ne nous laissons pas impressionner par la science et ses progrès et ses techniques. Pas en réalité, il ne maîtrise rien. Et nous avons un ami qui s'intéresse beaucoup à son ordinateur. Bon, il a un ordinateur, bon, et il est à la retraite, c'est très amusant, et il veut, au moyen de cet ordinateur, quand même régler ses petites affaires, régler différentes affaires. Ah, bon. Depuis qu'il a cet instrument, il est tellement occupé, et il est pris dans le fond, il est dans les embarras les plus grands, il ferait mieux de prendre un crayon et un bout de papier, et puis d'arranger les choses tout simplement comme autrefois. Et pourtant, c'est un homme qualifié, hein, un homme qualifié. Bon, alors, la destinée glorieuse de l'homme, pourtant, cette destinée glorieuse de l'homme, elle est affirmée, en dépit de sa faiblesse, elle est affirmée. Et nous la voyons réalisée en Jésus-Christ, voilà ce que nous dit notre épître. Elle va se réaliser, cette destinée glorieuse de l'homme, elle va se réaliser en Jésus-Christ, lui, le second Adam. Le second Adam, lui qui, ayant été rendu pour un peu de temps inférieur aux anges, en tant étant dans l'enveloppe humaine, il est rendu inférieur aux anges. Eh bien, pourtant, il est couronné de gloire et d'honneur. À cause de la mort qu'il a soufferte, lui qui a pu par la grâce de Dieu, c'est notre texte qui précise ça, mourir pour tous les hommes. Ainsi, tout ce qui a été résolu par Dieu en faveur de l'homme se trouve accompli en Jésus-Christ. Et ce qui est accompli en Jésus sera vrai pour la nouvelle humanité tout entière, cette humanité qui est née de nouveau. Cette humanité rentrera dans le plan de Dieu aux côtés de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi les rachetés du Sauveur régneront avec lui. L'humanité tout entière retrouvera ses prérogatives magnifiques que Dieu lui a accordées et qui ne sont pas perdues. Je vous lirai à ce sujet dans l'Apocalypse au chapitre 22, les versets 3 à 5. Il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit et ils n'auront plus besoin ni de lampe ni de lumière parce que le Seigneur, Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Ils n'auront plus besoin de lampe et de lumière et vous savez si Jean peut-être avait voulu prolonger un peu son inspiration, il aurait dit « Ils n'ont plus besoin d'ordinateur. » Ainsi, tout ce qui a été résolu par Dieu se trouve accompli en Jésus-Christ et revient à la nouvelle humanité. En Jésus et par lui, l'homme déshérité à cause du péché, déshérité qu'il est à cause du péché, sera remis en pleine possession de la domination première. Alors, cela appelle des observations. Évidemment, ça ralentit notre étude, mais tout de même, on ne peut pas perdre des occasions aussi bonnes que celle-là de faire place à notre petite, je dirais pas notre jugeote, mais à des observations qui s'imposent. Première observation. Le règne sur le monde à venir, tel qu'il est évoqué par le psaume 8, appartient donc à l'espérance. À l'espérance. L'espérance que doit avoir tout enfant de Dieu. C'est l'héritage promis à Abraham. C'est ça, l'héritage. Ça fait partie, si vous voulez, c'est l'héritage promis à Abraham, c'est l'héritage des saints dans la lumière, c'est le même, l'héritage promis à Abraham, c'est l'héritage des saints dans la lumière, c'est l'héritage éternel, dit aussi notre épître aux Hébreux au chapitre 9. Cette promesse formelle de l'héritage éternel peut être savourée par tout croyant, dans la mesure où ce n'est plus lui qui vit, mais Christ qui vit en lui. Si Christ vit en nous, nous pouvons savourer ça. Nous avons cet héritage. Il ne faut pas que ce soit l'ambition humaine qui s'engouffre là-dedans, n'est-ce pas? Mais il faut dire tout de même, n'est-ce pas, avec adoration de Dieu, Seigneur, oui. Eh bien, je vis, c'est Christ qui vit en moi, et je vois devant moi, je me réjouis déjà de l'héritage auquel je vais participer. Christ, si Christ vit en lui, bien sûr, et l'héritage peut être savouré dans la mesure où l'homme a laissé remplacer sa nature humaine, héritée d'Adam pécheur, par la nouvelle nature que Christ crée en lui. Nous sommes une nouvelle création, une nouvelle créature, dans la mesure où il n'appartient plus au monde ancien. Si nous voulons appartenir au monde ancien, alors là, nous nous séparons, nous nous coupons de l'héritage réservé aux saints. Nous nous coupons de Jésus-Christ, nous nous coupons de l'héritage, dans la mesure où il n'appartient plus au monde ancien, mais au monde à venir. Appartenons au monde à venir. Voici, dit l'Apocalypse, presque à la fin, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et ça, Chers amis, mais nous avons besoin de nous le redire, ça. Nous avons besoin de vivre avec ces paroles-là. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Ne revenons pas aux choses anciennes qui vont périr. Je fais toutes choses nouvelles. Deuxième observation. Jésus a été abaissé pour peu de temps en dessous des anges. Et cela ne nous étonne pas, puisque dans l'Épître aux Philippiens, nous l'avons, n'est-ce pas, au chapitre 2, que Jésus s'est dépouillé, et il n'a pas regardé comme une preuve à arracher de rester égal à Dieu, mais il s'est dépouillé, il a paru comme un simple homme, comme un serviteur. Donc, il a revêtu la nature humaine. Il s'est identifié aux hommes, il s'est identifié à nous, afin que les hommes s'identifient à lui par la foi. Vous voyez la réciproque. Il y a toujours, faut toujours penser à cette idée de réciproque que le Seigneur Jésus a bien souligné quand il a dit « Demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Moi avec ma victoire, avec l'héritage, parce que c'est moi l'héritier et vous, vous êtes co-héritier. Alors, avec ma victoire, avec l'héritage, moi je viens demeurer en vous. Mais vous, demeurez en moi. Demeurez en moi. » Alors, il y a cette réciproque. Christ commence par s'abaisser. Et Darby dit « s'anéantir, vraiment, paraissant comme un simple homme. » Il s'identifie à l'homme. Il s'identifie à l'homme pécheur, tout en n'étant pas lui-même pécheur. Mais il s'identifie à l'homme pécheur. Et le salut, c'est que les hommes pécheurs, repentis, ayant reçu en eux la lumière de la vérité, s'identifient à lui. Vous voyez, lui s'identifie à l'homme pécheur. Et l'homme pécheur repenti s'identifie à ce grand Seigneur, s'identifie à ce Dieu qui vient. Il s'identifie à lui, à l'humanité que revêt ce Dieu qui vient. Voilà, la réciproque. Demeurez en moi, et moi, je demeurerai en vous. La réciproque. Et alors, c'est ainsi que nous entrerons avec Christ en possession de l'héritage, puisque nous sommes co-héritiers. Troisième observation. L'œuvre de rédemption s'opère par le dedans, mes amis. Et il y a un défaut dans l'Église, qui consiste à penser que les choses vont s'opérer par le dehors. C'est pas vrai. On ne peut pas s'opérer par le dehors. Tous ceux qui ont cette pensée, qui sont lancés sur cette mauvaise voie, eh bien, échouent, évidemment, n'est-ce pas ? Jamais ils ne deviendront chrétiens. L'œuvre de rédemption s'opère par le dedans. Ce qui souille l'homme, ce qui le perd, provient du dedans, a dit Jésus. Ça provient du dedans. L'œuvre de rédemption s'opère par le dedans. En conséquent, tous ceux qui sont encore dans les dehors et qui pensent qu'en raison de leurs attitudes, en raison de quelques petits changements, ils vont pouvoir s'intégrer au monde chrétien, hein, eh bien, ceux-là se leurrent. Il faut donc que l'œuvre de rédemption s'opère du dedans de l'homme, par le dedans de l'homme. De même, ce qui purifie doit pénétrer et agir intérieurement. C'est la parole de Dieu qu'il faut recevoir, manger et garder. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle. Il faut manger, il faut s'incorporer. C'est par le dedans. Et dans la vie chrétienne, c'est par le dedans toujours que nous arriverons véritablement à réaliser notre vocation. Ainsi, que notre communion avec Jésus soit réelle, profonde et constante, pour que par sa force et sa victoire, s'opère en nous, dans l'être intérieur, dit Paul, dans l'être intérieur, la palingénésia, c'est-à-dire le nouvel engendrement, et cela même, dit l'Épître aux Éphésiens, en plénitude. En plénitude. Notre communion avec le Seigneur Jésus-Christ, elle est réelle, profonde et constante par la force et la victoire. Eh bien, la palingénésia, le nouvel engendrement, s'opère dans l'être intérieur, par le dedans, dans l'être intérieur, et cela en plénitude. Si nous réalisons bien tout cela, si par la foi, d'abord nous sommes intelligemment conscients de ce que nous dit la parole de Dieu, parce qu'il faut la comprendre, il faut la recevoir avec intelligence, eh bien alors là, ce sera dans l'être intérieur. Nous ne chercherons rien qui s'opère extérieurement, rien dans les apparences, dans les actes que nous imaginons. Les véritables actes, les actes qui sont valables et qui sont un témoignage, ils proviennent précisément de ce qu'il y a au-dedans. Ils sont l'extériorisation alors de ce qu'il y a au-dedans. Et il faut que s'opère en nous une palingénésia, car le mot est appliqué concernant la terre. La terre, le rétablissement des choses à venir, c'est la traduction de la palingénésia. Et puis, la palingénésia est appliquée aussi dans un texte, dans une épître pastorale, est appliquée à l'expérience intérieure de l'homme. La palingénésia, un nouvel engendrement, l'homme nouveau. Et cela en plénitude.